Et il est, je sais plus quel genre. Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voies du scénarium. Attention, générique.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré et laissez-y un peu de la joie que vous y apportez.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.
Ils conduisent les hobbits en mise en garde.
Je s'appelle Groot.
Il n'y avait qu'un moyen de sortir d'ici et vous l'avez coupé.
Peut-être que vous étiez mieux dans votre cellule.
Sarah Connor.
C'est à côté.
Exterminate! Exterminate! Exterminate!
Nous sommes au bord d'un carrefour éruptif quadruple d'une libération d'énergie tellement formidable qu'elle en sera même dangereuse.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road.
Follow the yellow brick road. Follow the yellow brick road. Follow, 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 follow the yellow brick road. Follow the yellow brick, follow the yellow brick, follow the yellow brick road.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.
Bah là, on joue là, c'est sérieux?
Eh oui, on joue, c'est sérieux, sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans les voix du scénarium. Seb au micro, on va passer ensemble une heure. Mais je ne suis pas tout seul, je suis en compagnie de Romain.
Salut!
Ça va Romain?
Super.
Ah, je suis en train de mettre des coups de pied dans le bureau. Ça, normalement, vous ne l'entendez pas. Et j'ai encore un problème de casque, je ne m'entends pas non plus, c'est pas grave.
C'est embêtant.
Bah ouais, tant que vous entendez ma voix, ma sublime voix... Je peux même la faire un peu poser comme ça. Bref, on n'est pas là pour faire une émission ASMR, on est là pour faire une émission basée sur le jeu de rôle. Non Romain, ça marche pas, c'est le casque, c'est la prise qui est... Romain a essayé de me passer un autre casque, mais c'est la prise qui est rouspète. Mais il n'y a pas que nous deux ce soir, c'est bien ça hein, Romain?
Bah normalement on a quelqu'un au téléphone.
Normalement on va voir quelqu'un au téléphone. Alors non, pas tout de suite, allô, ça va faire... Comme ça, normalement. Ensuite, je fais ça.
Oui, et ensuite, je fais
ça. Et normalement, on peut dire bonjour, Denis.
Bonjour.
Ça va bien?
Ça va bien, merci.
Bon, alors, eh ben, Romain, je te laisse guider, si ça te va.
Eh ben, on a Denis Huneau au téléphone.
Mais qui est Denis Huneau?
Ben, il va nous le dire. On peut dire quand même qu'on fait cette interview dans le cadre de l'après-midi jeu de rôle de LUCO 2026.
Oui, tout à fait. Donc c'est une journée que j'organise depuis pas mal d'années, puisque donc je suis alors dans le métier professionnel musicologue et responsable de la filière musicologie à LUCO, mais je suis très impliqué dans le jeu de rôle depuis toujours. J'ai fait beaucoup de traductions pour Sans Détour en particulier, mais aussi comme je suis musicologue et musicien, quelques musiques. On entendra peut-être un extrait tout à l'heure, je ne sais pas.
Tout à fait.
Enfin voilà. Alors, et donc,
Denis, je me permets avant que vous n'alliez trop vite ou que tu ne l'ailles trop vite, je ne sais pas si on se tutoie, on se voit.
Oui, on se tutoie.
Pour les gens qui, alors les Angevins, je pense que LUCO, Université catholique de l'Ouest, ils connaissent. Mais c'est quoi un musicologue?
Ah, un musicologue, comme tous les mots en hologue, c'est des gens qui travaillent, réfléchissent sur le domaine donné, donc sur la musique. Moi, je suis chercheur en musicologie, en histoire de la musique, on va dire, et je travaille sur la musique, on va dire, de la période Troisième République, où il y a les grands Ravel, Debussy, hein, le Boréo de Ravel, je pense que tout le monde a entendu. Voilà.
Oui, j'imagine. Donc c'est un sociologue, mais pour la musique, quoi. Enfin...
plutôt historien ou technicien de la musique. J'analyse aussi un peu les œuvres, quoi, et je les remets dans leur contexte. Voilà.
Ok. Moi, je vois le
ça va mieux déjà.
Conservatoire à rayonnement régional par la fenêtre, là. C'est juste en face du studio. Et Denis, t'interviens des fois là-bas.
C'est tout près. Je suis déjà venu vous voir. Oui, j'interviens et ils interviennent. En fait, on est vraiment en partenariat parce que c'est complémentaire. Alors, je vais pas développer, mais en France, il y a deux manières d'enseigner la musique. Il y a dans les écoles de musique conservatoire et puis il y a dans les lycées, universités. Et c'est pas tout à fait les mêmes branches. Mais on travaille ensemble.
Ok. Et donc, dans ce cadre-là, il y a quelque chose organisé.
Oui, voilà, parce que d'abord c'est mon hobby et puis même un peu semi-professionnel parfois. Comme je l'ai dit, ça fait pas mal d'années, donc à l'époque, un peu moins maintenant, hein, il y a eu un nouveau boom du jeu de rôle. Mais à l'époque où j'ai fait mes premières années, le but était de faire découvrir ou redécouvrir le jeu de rôle. Et le principe, c'est des parties d'initiation, donc où les gens peuvent regarder ou évidemment jouer. On est dans le hall de l'université, donc avec un grand espace, et puis c'est des parties normalement courtes. Alors on a le choix, hein, puisque c'est de 13h30 à 17h30, ça sera donc samedi prochain. On est quand même à l'université, donc j'ai toujours voulu qu'il y ait des petites conférences avant, qui lancent un peu les choses, hein, qu'on réfléchisse un peu sur le jeu de rôle. Et donc ensuite des parties de démonstration, soit courtes, 1h30, soit un peu plus longues, ça fera 3h.
Ok. Du coup, les gens viennent jouer à quoi comme jeu ? Il y a déjà des jeux qui sont posés ?
Alors oui, j'ai pas toute la liste, malheureusement, c'est ce que je disais à Romain tout à l'heure. Les conjurés du temporaire, donc vont intervenir. C'est une des grandes associations de jeux d'Angers, et c'est même une association historique. Hein. On le sait peu, ou vous l'avez peut-être plusieurs fois dit, mais notre Ouest, et je dis notre Ouest parce que là on est à Angers, mais moi je suis nantais et j'ai connu ça à Nantes aussi. On a vraiment fait partie des zones pionnières de France sur l'arrivée des jeux, on disait de simulation à l'époque. Alors il y avait les wargames, il y avait les jeux de rôle, etc. Et donc les conjurés du temporaire sont une des premières associations historiques en France et qui continuent à perdurer, quoi. Donc eux, ils vont intervenir un peu comme l'avaient fait les arts ludiques d'autres années. Ils vont amener des MJ, ils vont amener donc des parties. Malheureusement, je n'ai pas le détail complet pour eux. Moi, je vais vous dire pour.
Alors moi, j'ai quelques infos. Je peux peut-être le dire tout de suite.
C'est vrai, Romain. Bah, très bien.
Ouais, je sais qu'il y aura du Dungeon Crawl Classics, avec Augustin, aussi des Gon Farmers de l'Anjou, du Advanced Dungeons and Dragons 2. C'est pas tout récent, ça.
Ouais, ça bien. Commence à dater un peu.
Du AD&D et un scénario de science-fiction avec les règles de l'appel de Cthulhu, parce que ce sera animé par François, qu'on a reçu dans l'émission d'avant.
Exact.
D'accord, voilà. Bon, tant mieux, vous avez des infos, mais que je vais sûrement recevoir incessamment sous peu, mais voilà.
Et puis moi, je peux dire aussi, je fais avec Imaginaire pour faire jouer One More Quest.
Voilà, c'est
on
ce
en
que
parlera après. On en parlera
après. Et moi, je les ai déjà fait certaines années, mais ils fonctionnent bien en initiation parce que les règles sont simples et les univers faciles à appréhender. Donc, je vais faire le début de 2012 Extinction, qui est un jeu des 12 singes. C'est une sorte de campagne, en fait, autour de... Mais les règles sont simples et les personnages sont très bien dessinés. C'est un peu espionnage, mais fantastique. Et puis, sans doute, un Leagues of Adventure, qui est une sorte de Jules Verne, steampunk, un peu d'aventure. Voilà, à l'époque victorienne, on va dire.
Ok.
Ça veut dire qu'on peut arriver aussi vers 16h, excuse-moi, finalement, pour une deuxième partie, quoi.
Alors, oui, si on calcule 14h30, 16h, c'est ça, et 16h, 17h30. Oui, sur le principe. Après, pour moi, oui, pour d'autres MJ, ils préféreront faire des parties plus longues, enfin voilà, mais en effet. Et le but, de toute façon, moi, je l'ai toujours pensé comme ça. J'imagine des gens qui voudraient voir à quoi ça ressemble, mais sans trop s'impliquer, on peut tout à fait... regarder les parties se faire. Il y a l'allée centrale où on peut déambuler ou prendre une chaise, s'asseoir et regarder les autres jouer, quoi.
Le but est quand même de découvrir le jeu de rôle ou ouais. C'est forcément plutôt orienté vers des joueurs un peu avertis déjà ?
Non, le but c'est plutôt ça, mais après c'est ouvert à tous et c'est vrai qu'il y a des joueurs avertis aussi, ce qui permet d'avoir plus de joueurs de table, enfin voilà, plus d'ambiance on va dire que simplement de l'initiation. Mais le but c'est vraiment de faire découvrir, et tous les ans on le fait et c'est très chouette, hein, découvrir aux gens ce qu'est le jeu de rôle, par la pratique. Donc normalement j'ai des étudiants aussi qui viennent, mais bon après c'est un samedi alors...
Oui, peut-être qu'il faut qu'ils se remettent de la semaine.
De la semaine, oh non, mais on sait bien, il y a pas mal d'étudiants qui rentrent chez eux en fait le week-end, donc moi j'essaie de les mobiliser tout le temps, alors j'en ai toujours quelques-uns, mais bon, je n'ai pas non plus toute la promo des musicaux, mais bon, normalement l'info a été donnée sur le campus.
Alors moi j'ai une question, tu as deux invités pour la conférence avant,
oui, alors,
Sébastien
oui,
Sellerin puis l'auteur d'Arcanval, voilà. Est-ce qu'on pourra jouer à Arcanval par exemple ?
Oui, tout à fait.
Ah oui.
Oui, voilà, tous les ans il y a une thématique. L'année dernière c'était autour de la musique et du jeu de rôle. J'avais présenté quelques-uns de mes morceaux et puis toi t'étais intervenu aussi, Romain, etc. C'était très bien d'ailleurs. Cette année plutôt des auteurs éditeurs pour intervenir. Comment est-on auteur et éditeur dans le monde actuel du jeu de rôle? J'espère du coup d'ailleurs que des gens par exemple de la communication sont intéressés par ça ou de l'édition. Sébastien Sellerin, qu'on ne présente plus, ou en tout cas dont je peux dire deux mots, en tout cas c'est un des grands éditeurs de jeux de rôle français qui a été très impliqué chez les Douze Singes, là qui se recentre un peu plus sur ses projets personnels d'éditeur ou de conseil, on va dire.
On a donc eu l'occasion de l'avoir ouais. dans l'émission pour parler de Brindlewood Bay justement il y a assez peu de temps.
Jeu qui est arrivé tout cette semaine et qui est juste devant Sébastien dans le studio.
Bon, bah, très bien, tout se recoupe, c'est ouais. parfait. Donc c'est quand même un des grands monsieur du monde du jeu de rôle français. Et puis alors l'auteur Jean-Marc Gillet, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Alors figurez-vous que lui aussi, il est passé par la musicologie. On a fait nos études ensemble à l'université de Tours il y a très très longtemps. Et on faisait évidemment des parties de jeux de rôle endiablées un certain soir. Non, pas pendant les cours, le soir. Du Cthulhu, du Warhammer, etc. Mais lui a toujours aimé présenter des scénarios qu'il écrivait lui-même. Et de fil en aiguille, il a construit ce monde, mais c'est vraiment quelque chose de longue haleine. C'est-à-dire, c'est vraiment un auteur, on va dire, one-shot, enfin, c'est vraiment son monde, etc. Mais il est travaillé depuis des années et des années, et ce qui donne des livres très très beaux. Hein. C'est très très chouette là, ce qu'ils ont sorti. Donc un monde, un monde d'heroic fantasy, mais créé de manière très profonde. En plus, les illustrations sont très belles. Les livres, moi, ça me rappelle les livres que faisait Sans Détour, hein, c'est-à-dire c'est des livres qu'on a vraiment plaisir à feuilleter et à mettre dans une bibliothèque. Il y a trois gros livres pour l'instant, le livre des règles, le livre du MJ et le livre du monde.
En tout cas, le visuel l'affiche de voilà. l'événement déjà est très jolie oui. et c'est une couverture d'Arcanval, non enfin,
oui, oui, tout à fait. C'est la couverture d'un des livres, je ne sais plus lequel, mais tout à fait. En fait, lui aussi, m'a-t-il raconté, Jean-Marc, il avait sympathisé avec un des graphistes, sans doute celui-là d'ailleurs, et il y a déjà longtemps, et en fait, avant que ce dessinateur se fasse un nom, et donc. Par amitié, en fait, ils ont continué à collaborer sur ce jeu, qui est un projet sans doute moins important pour maintenant le dessinateur que d'autres choses qu'il fait, mais il a maintenu évidemment cette collaboration.
C'est parfait. Une question sur le lien musique jeu de rôle.
Ah oui.
Donc tu composes, si j'ai bien compris, mais oui. j'ai cru aussi me laisser dire que tu composais pour le jeu de rôle.
Ah oui, justement, j'ai essayé de mettre, de conjuguer en fait mes différentes compétences ou passions. On a sorti avec un collègue qui est un ancien étudiant hein, de la filière et qui est maintenant compositeur de musique de film, Mathieu Wilbert. On a composé tout un album qui est épuisé hein, normalement chez Black Book, donc qui est l'album de La Élite. Hein, je pense que vous en avez parlé un jour ou l'autre.
Un jeu mythique.
Oui, c'est le mythique, c'est-à-dire c'est une ville qui est développée par la revue Casus Belli depuis plusieurs décennies, qui a donné lieu à différents numéros spéciaux, et puis depuis là quelques années à d'énormes boîtes compilant tout ça, ajoutant énormément de choses, et donc Lors de la campagne participative la plus importante, on avait proposé sur demande d'ailleurs de Black Book, hein, en fait ça s'est fait de fil en aiguille, tout un album où on a décrit musicalement chacun des quartiers de la élite, hein, qui, comme c'est, enfin je peux le redire, c'est une ville orientalisante, mais avec dominé par le roi Dieu qui est au niveau le plus élevé de la ville, à un niveau inaccessible, et puis on peut descendre jusqu'au cloaque dans les sous-sols, et donc chaque morceau décrit un peu chaque quartier, le quartier des artisans, les temples, etc. Et puis alors pour Arcambal, bah je le dis, ça c'est une info nouvelle, je compose un petit morceau aussi que m'a demandé Jean-Marc, parce que j'ai parlé des trois livres, mais un prochain livre va sortir, une grande campagne. Il y a quelques scénarios dans le livre du meneur, si je ne m'abuse, du MJ. Ils ont sorti trois scénarios supplémentaires en supplément numérique, là. Mais une grande campagne est presque sous presse. Enfin, ils sont en train de relire les textes. Et donc, moi, j'écris un petit morceau, en fait, dont le... Parce que la campagne va être centrée autour de fragments. Enfin, bon, ça, c'est un classique. De fragments d'un objet magique ou d'une gemme, je ne sais plus. Et donc, chaque fragment sera associé avec une mélodie. Et donc, en réunissant les mélodies, ça fera aussi le morceau final. Donc, il y a une association avec la résonance, la musique, tout ça, ouais.
Très, très cool, ça.
Et donc, dernière chose avec la musique, c'est que moi, je fais, parce que c'est un grand pan, quand même, la musique, dans le jeu vidéo en particulier. Dans le jeu de rôle un peu, mais dans le jeu vidéo, j'ai un cours pour mes étudiants là-dessus qui s'appelle Musique ludique, hein, qui développe l'histoire de la musique et la technique des musiques dans l'univers ludique.
Ah, j'ai déjà plein de choses qui m'arrivent à la tête là, juste avec ces thématiques-là. Il y a tellement de choses. Je pense à Akira Yamaoka sur Silent Hill qui a fait des musiques qui sont assez fabuleuses.
Oui, il y a plein de choses. Ben, oui.
Rien que dans le jeu de rôle, déjà, je pense, avec les fous lancements participatifs, on a ouvert un peu une brèche, parce que bon, avec les, bon, des bonus un peu qu'on débloque, en fait, plus il y a d'argent dans la campagne, plus on peut demander à des gens de ramener des projets autour. Donc, je pense qu'il y a pas mal de BO un peu depuis.
Ils sont associés au jeu. À mes étudiants, pour résumer en fait la trajectoire, les premiers jeux de rôle, il n'y a pas de musique. D'abord, bon, elle est moins prégnante qu'aujourd'hui dans la société, mais il y a aussi une question technique aussi. Et en fait, à partir du moment où la technique évolue et on peut faire des playlists facilement, parce que le problème du jeu de rôle, enfin, on le sait bien, c'est comme le jeu vidéo, c'est que on ne sait pas la durée d'une scène donnée en fonction des choix des joueurs, etc. Donc, il faut des musiques aussi qui s'adaptent ou qu'on puisse lancer immédiatement. Pour telle scène. Donc la technique a beaucoup aidé autour de ça, et maintenant on a des musiques dédiées directement à un jeu ou à un scénario précis. Là, pour parler de Cthulhu, je vais sortir en financement participatif sur Ulule une grande campagne pour Trail of Cthulhu qui va ressortir en français enfin chez le Raffio Fringant. Et comme la deuxième édition tarde, les Anglais là, ils tardent à finaliser leurs règles. Nous, on avait traduit il y a déjà plusieurs mois la grande campagne Eternal Lies. Et donc là, du coup, Raffo Fragant, qui est avec Christian Grussi à la barre, hein, un des grands éditeurs de Sans Détour pour l'Appel de Cthulhu. Donc ils ont sorti ça, là, elle est toujours en cours, et parmi les options possibles, il y a effectivement un album de musique avec, 70 morceaux, un truc de fou.
Oui, ça fait un gros album, là, quand même.
Ouais, et moi, je constate que, de plus en plus, les scénarios, alors souvent plutôt les campagnes, mais ou les jeux de rôle qui sortent, il y a toujours un ou deux paragraphes sur la musique, ou sur des suggestions de musique. Enfin, voilà. C'est des choses qui se faisaient pas autrefois, hein.
Et puis souvent, maintenant, je pense que les médias se collusionnant, si je peux utiliser ce terme-là, on a tous dans nos imaginaires des musiques, quand il y a une scène épique de charge, on a le Seigneur des Anneaux qui va popper quasiment instantanément. Il y a plein de choses, en fait. Et il y a tellement de musiques créées dans nos imaginaires qu'on ne peut pas ne pas les appeler... les invoquer, si je peux me permettre de le dire.
C'est ça, et puis la musique, elle est importante, en fait, on sait bien, dans le cinéma, ça a été ça, mais pour se plonger, oui, dans une scène, ça renforce. En fait, la musique concrétise hein, l'ambiance d'une scène ou d'une époque. Immédiatement, dès qu'on entend, je sais pas, quelques notes de musique des années 30, on est plongé dedans, quoi.
Complètement. Je propose qu'on fasse un court interlude justement pour écouter une de tes compositions. Donc pour l'élite c'est la cité du roi Dieu. Et ben on a choisi, Romain a choisi.
C'est Denis qui a choisi.
C'est Denis. C'est vous, c'est toi qui as choisi le cortège du roi. Donc on fait une courte pause et on se retrouve tout de suite après.
De la BO de L'Élite,
le cortège du roi, composé par Denino, qu'on a avec nous en ce moment sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes toujours dans les voies du scénarium.
Comment t'es arrivé sur ce projet, Denis?
Alors, tout part de Héros et Dragons. Je ne sais si tout le monde se souvient de ce projet de Black Book, enfin qui n'a pas été qu'un projet, hein. C'est un gros jeu de rôle. En fait, je redis quelques mots. La cinquième édition de Donjons et Dragons, pendant un moment, n'a pas été traduite en français. L'éditeur américain a sorti, comme souvent, enfin une sorte de noyau, enfin des règles, les choses les plus centrales, et a permis ensuite à des éditeurs tiers d'écrire des suppléments. Les éditeurs français, puisqu'ils ont été deux, dont Black Book, se sont dit on va réécrire les choses autour de ça et créer un jeu de rôle type Donjons et Dragons, puisqu'il n'y a pas de vrai Donjons et Dragons 5e édition en langue française. Et donc pour Black Book, ça a donné Héros et Dragons, avec une campagne participative assez énorme, je sais plus, plusieurs centaines de milliers d'euros à la clé. Et nous, on travaillait déjà un peu, on faisait des morceaux dans notre coin avec Mathieu Wilbert, dont j'ai parlé tout à l'heure. dont une musique un peu orientalisante. Et c'est vrai que le soir, là, tout le monde était tellement enthousiaste et tout que j'ai balancé à Damien Coltis notre musique qu'il a mis en... D'ailleurs, elle doit toujours y être, hein, dans les méandres du site Black Book. Et en fait, le côté orientalisant leur a fait tilt parce qu'ils étaient déjà en train de plancher sur leur projet de la élite. Et donc, de fil en aiguille, ils ont demandé cet album. Voilà. Comme quoi, hein, des petites choses entraînent parfois des projets inattendus.
Ça se compose comment et ça prend combien de temps un album pour du jeu de rôle?
Alors l'album, ça a été, en fait, je parle de Mathieu Wilbert, mais on a été trois. Il y a un de ses collègues qui a affiné en fait le mastering. Ben on collabore ensemble, on propose des idées, et puis on formalise les choses, et puis au fur et à mesure ça prend forme, quoi. Moi je suis assez à l'ancienne, hein, j'ai été formé conservatoire de Paris, tout ça, donc j'écris plutôt les choses d'abord sur un canevas sur portée, hein, par écrit, et puis ensuite je rentre ça sur clavier, ordi, et tout ça, quoi. Et puis Mathieu a apporté ses propres idées, et puis je vous dis, un de ses collègues a affiné le mastering final.
Donc là, on a une composition qui a été faite assistée par ordinateur ou avec des vrais instruments?
Ah non, tout est assisté par ordinateur. Ouais. C'est des sons, mais c'est des sons pro. Hein,
voilà.
Cela dit, dans les morceaux, vous entendrez pour les temps, par exemple, il y a certaines fois des voix, et là, c'est des voix vraiment enregistrées naturelles.
Et ça prend combien de temps de créer un album comme ça?
Ça nous a pris, je sais plus, mais peut-être un an entre les premières idées et puis les allers-retours, etc. Ouais. Après, c'est pas un an à plein temps non plus. Hein, mais, oui. Il faut que les choses mûrissent aussi, il faut relire les choses. Mathieu connaissait pas bien la élite, mais s'est mis à lire des choses et tout ça.
Oui, il faut s'imprégner un petit peu du sujet.
Oui, c'est ça.
Et pour qu'on se donne un ordre d'idée, c'est combien de morceaux, pour quelle durée totale?
Alors, c'est de toute façon un album sur CD, puisqu'il est sorti sur CD. Hein.
Okay.
Ça d'ailleurs, tout était toute une question à l'époque. Est-ce que c'est... Donc
oui.
Black Book voulait que ça soit CD, et ça n'a jamais été mis vraiment en ligne. Donc d'où le fait que maintenant, je crois que c'est difficilement trouvable, ouais. Mais malheureusement...
Une rareté.
Mais donc un CD, de toute façon, c'est 75 minutes, 80 minutes maxi. Hein. Alors que je vous retrouve ça au niveau de toutes les musiques. Le mastering final. Bon.
Bon, faudra récupérer les droits un jour pour
ouais.
Mettre officiellement sur un site de
streaming.
Oui,
ce serait bien, en effet. Ouais. 4 temps, 8 terrasses, il y a le générique. Et puis, 1, 2, 3, ouais, donc on est là à 12, on a une quinzaine de morceaux.
Mais il y a beaucoup de quartiers dans la élite quand même, hein, donc...
C'est ça. Ouais. Et puis il y avait un gros générique de lancement, un peu type film, un grand spectacle. Il y a là, le morceau qu'on a entendu qui est un peu aussi... en dehors, oui et non, c'est un peu là-haut, mais le but c'était de montrer, de faire entendre une espèce de cortège gigantesque, énorme, et puis qui passe devant soi et qui disparaît ensuite.
Bah en tout cas, donc, c'est très immersif.
C'est ce oui, c'était
le but recherché, je pense.
Oui. Et chaque quartier était vraiment très, très différent. Par exemple, la terrasse des artisans, c'est un morceau plutôt de guitare très, très rythmé, mais où on entend des percussions qui ont des sonorités un peu de marteau et tout ça, enfin, d'outils artisanaux.
Ouais, le but était de construire quelque chose qui soit vraiment très représentatif de chacun des quartiers.
Okay. Le cloaque, c'est plutôt des sortes de résonances bizarres, des échos.
Alors tu m'avais dit que tu faisais travailler des étudiants quelquefois pour ambiancer des jeux.
Oui, c'est ça. On a fait à une époque justement quand Sans Détour existait quelques albums entre guillemets de morceaux. Lié à des scénarios de l'appel du Cthulhu. Et puis là, mes enseignants continuent régulièrement leur faire des morceaux autour de l'ambiance d'une scène, par exemple, ou un développement de monstres. On essaie de traduire un peu en musique un monstre.
contre, ça, c'est voilà. Des choses qui restent dans l'école, quoi.
Ouais. Oui, oui. Alors, ceux de Sans Détour avaient été mis sur le site, mais Sans Détour, comme on le sait, a disparu. A et sinon, ça reste à l'intérieur de l'école, oui, tout à fait.
Ok, hein, c'est super intéressant pour les
mais
étudiants.
Le but, hein, c'est que les étudiants aient vraiment des projets qu'ils ont faits et qu'ils puissent ensuite présenter après la licence, pour montrer ce qu'ils savent faire, quoi.
Est-ce que t'as mis des gens au jeu de rôle, hein, en les faisant travailler sur de la musique comme ça, des gens qui n'en faisaient pas avant?
Sur la musique, je sais pas trop en fait, j'en sais rien. Mais j'y reviens dans ma journée, oui. Il y en a vraiment qui sont sortis de la journée jeu de rôle en disant ah, je vais m'acheter une boîte et tout ça. Ouais. Ça m'est arrivé de les faire jouer aussi, hein, mais là cette année je l'ai pas fait, mais d'autres années où je les réunissais plusieurs là, puis on faisait une partie d'initiation.
À propos de la journée de samedi, il y a toujours un partenariat aussi avec une boutique.
Oui, Sortilège. Bon, c'est un peu ma boutique, donc voilà, on se connaît bien. Oui, c'est tout à fait bien de le dire, hein, parce que Sortilège nous donne pour la journée des lots de dés, en fait, des boîtes de dés à gagner à la fin. Je rajouterai aussi quelques suppléments jeux de rôle, ou peut-être un jeu de rôle, on verra. Donc à la fin, une fois que la journée est terminée, on range tout ça et on gagne au dé, parce qu'on reste dans le jeu, on gagne au dé les différents suppléments, les différentes boîtes de dés. Donc pour chaque lot, chaque joueur qui souhaite gagner le lot lance le dé, et puis celui qui a le plus haut résultat remporte le lot concerné.
Ça c'est top ça, faudrait juste retrouver une bande son de l'élite dédicacée.
Ah ouais, un CD.
Ce serait un super lot.
Ça court pas les rues, mais.
Tu as évoqué tout à l'heure les jeux auxquels tu jouais dans tes débuts. Est-ce qu'il y en a un par-dessus tout en fait qui t'a marqué, même si je pense qu'on a déjà eu des éléments de réponse.
Bah oui, non, c'est l'appel du Cthulhu. C'est vrai que c'est dans un article de Cassius Belli, hein, que j'ai découvert. Et bon, alors c'est lié. Je rappelle, j'ai dit tout à l'heure que je travaillais sur la musique de la Troisième République, donc qui va jusqu'en 1945. Donc un jeu qui se passe dans les années 20. Vous voyez, moi, pour moi, les grands musiciens dont j'ai parlé, Ravel, il est encore vivant. Debussy vient juste de mourir, c'est 1918. Donc on est en plein dedans. Donc c'était complètement passionnant. Le fait que ça soit plutôt enquête et non pas simplement des combats, quoi que j'aime bien aussi des parties de donjons, hein, mais mon côté universitaire, à mon avis, dans un CRE de l'appel de Cthulhu, faut toujours aller dans une bibliothèque à un moment, faut toujours aller fouiner. Et ça, je pense que tout ça, c'est des choses qui m'ont plu immédiatement. Ouais. Et c'est le premier jeu de rôle vraiment que j'ai acheté, la boîte initiale. Ouais.
De grandes parties.
D'où le fait que ensuite, j'ai aussi traduit des choses. Enfin, c'est vraiment. Parce que c'est inépuisable. En fait, c'est inépuisable parce que c'est tellement lié à l'histoire qu'on apprend toujours des choses en plus dans les scénarios. Enfin, bon, ouais.
Et est-ce que tu joues à des jeux beaucoup plus récents ou plus modernes? On parlait de Extinction, par exemple, qui est pas très très vieux. Mais quel est ton regard sur ces jeux-là, justement, plus récents avec des systèmes plus modernes?
Ah, moi j'aime bien, alors vraiment le système, j'ai beaucoup de mal, bien que j'en ai plusieurs. Tous les jeux motorisés par l'Apocalypse, j'ai du mal à m'y mettre dedans, ouais.
Ok.
Je sais pas pourquoi, pourtant ça a l'air séduisant, et puis je me penche dessus et j'y arrive pas. Il me faut un peu de hasard, je sais pas, des trucs. Parce qu'on dit que c'est libre, mais en fait c'est scripté aussi, hein, donc bref. Non mais tous les vendredis soirs en général, je fais des parties de jeux de rôle.
Ah oui, quand même.
Avec des amis, famille, tout ça. Mes garçons jouent aux jeux de rôle régulièrement, mon épouse tous les vendredis soirs, enfin voilà. Ouais. Et donc j'ai plein de choses récentes. J'arrive même pas à vous en citer en tête. Mais...
Le dernier coup de cœur, vraiment, le dernier jeu.
Alors, il y a des jeux un peu amateurs, mais semi-professionnels. L'auteur, comment s'appelle-t-il, celui qui a fait Brigandine, etc., qui est en impression à la demande.
James.
Oui, James Arnold, voilà. Ah. Il fait des choses très très bien. mais les scénarios sont toujours super bien écrits, c'est plein de rebondissements et tout. Et donc on s'est fait l'intégrale, il y en a pas tant que ça de scénarios, mais il a fait Sherwood sur ouais. Sur Robin des Bois, et on s'est bien amusé, hein, franchement, c'était bien.
Eh ben c'est parfait. Là tout à l'heure on va parler de deux jeux, on va parler de Brindlewood Bay, One More Quest. Est-ce que c'est des jeux dont tu as entendu parler
Ouais, alors One More Quest, je crois bien que j'ai pledgé d'ailleurs, parce qu'il est pas encore sorti, hein, si je ne m'abuse.
Non, il sort dans un mois chez Entre Mondes Éditions. Ouais.
On va parler de la version anglaise.
Oui. Il y a une cible, hein, c'est ça.
Tout à fait. Donc là ça change un peu les GD. Bon, on reparlera de ça tout à l'heure. Brindlewood Bay aussi était arrivé un peu original dans son déroulement narratif.
Oui. Alors ça, j'ai vu passer ça, mais je m'y suis pas encore beaucoup penché à ça.
Bah on avait interviewé Sébastien Salerin, je sais pas, c'était il y a 2-3 mois à ce propos.
Ah ouais, d'accord.
Dans cette émission.
Le but étant de jouer des vieilles dames qui sont dans un club de lecture.
Et effectivement, il y a un actual play sur la page de l'émission là.
Oui. Un actual play en trois parties sur Brindlewood Bay.
Alors les cibles, c'est assez rare, mais il y avait déjà eu un jeu de zombies chez Jeux de rôle édition où on avait des cibles avec des dés lancés. Ouais, tout à fait. Comment il s'appelait Friday Night Zombie.
Night Zombie. Je ne connaissais
pas. Chez Jeux de rôle édition, ouais. Et il y a des cibles, on lançait les dés sur une cible. Ouais.
Alors là, il n'y a pas que la cible, hein, mais bon, je vais vous raconter tout à l'heure. Il y a aussi, il faut faire plein de gestes compliqués pour arriver sur la cible.
D'accord.
Et ben ça devrait être
ça samedi après-midi à partir de
14h30. Super.
On va redonner les informations pour la journée. Alors comment elle s'appelle du coup cette journée?
Donc jeu de rôle, drôle de jeu.
Jeu de rôle, drôle de jeu.
Ouais.
Ce sera à Luco.
À Luco, donc c'est dans le bâtiment Bazin, c'est le plus grand bâtiment central du campus derrière le bâtiment historique là. Dans le hall, au rez-de-chaussée, donc. 13h30, 17h30, comme vous l'avez compris, de 13h30 à 14h30. Mais c'est bien d'être là, parce que, quand même, Sébastien Sellerin et Jean-Marc Gillet parleront d'être auteurs et éditeurs dans le monde des jeux de rôle actuellement. Ensuite, les parties de démonstration, dont une partie d'Arcanval par l'auteur lui-même, hein, Jean-Marc Gillet. Alors, ça sera une partie longue. Hein, lui, il aime bien les campagnes et tout ça. Il m'a dit, ah non, une partie courte, 1h30, j'y arriverai pas. Donc, partie longue, 3h. Donc, si vous voulez jouer avec Jean-Marc Gillet, c'est à 14h30.
Il y a des préinscriptions quelque part ou pas?
Non. C'est entrée libre et tout ça. J'avais fait ça la première année, et puis bon, c'est pas plus... c'est entrée libre. Voilà.
Ok, parfait.
Donc le hall, et puis en fait, pour les conférences, dans l'amphi, qui s'appelle l'amphidiès, qui donne sur le hall, juste dans l'entrée.
Eh ben c'est parfait. Où est-ce qu'on peut te retrouver éventuellement sur les réseaux sociaux, suivre tes activités?
Alors,
s'il n'y a pas, il n'y a pas. Hein.
Non, il n'y a pas. Okay. Il n'y a pas vraiment. J'y passerai mes journées et j'essaie de préserver mon temps de cerveau disponible, comme on dit. Donc non, j'ai pas tellement de ça.
Eh ben parfait. On vous donne rendez-vous, chers auditeurs, à Luco ce samedi pour disputer des parties endiablées. Et découvrir simplement le jeu de rôle ou même écouter la conférence. Merci beaucoup, Denis.
Très bien. Merci.
À une prochaine fois.
Ça marche. Allez, bonne
merci
soirée.
Denis, à samedi.
Bonne soirée.
Oui, au revoir.
Au revoir. Là, on va s'écouter Tales Under the Oak.
Raccroche quand même.
Si j'ai pas appuyé sur le bouton au bon moment. On va s'écouter Tales Under the Oak de Fungal Domain. Et on y va juste après.
Que j'ai choisi parce que donc Tales Under the Oak, c'est un Allemand qui fait, on va dire, un peu du Dungeon Synth, mais vraiment très très cosy, très comfy. Et entre autres, il a fait 2 albums pour illustrer des choses de Old School Essentials, donc Dolmenwood, qui est un cadre de campagne un peu forêt féerique. Pour OSE, et Denis a participé à la traduction d'Old School Essentials. Version française qui est sortie chez 500 nuances de geek.
Eh ben c'est parfait, on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G.
Vision G. 101.5 FM.
Eh ben, vous êtes de retour.
C'était bien cosy comme musique.
C'était, ouais, j'ai cru que j'allais m'endormir.
Nos auditeurs aussi.
Non, mais c'était vachement bien. J'aime bien ce genre de truc. Et on parlait d'ambiançage.
Ah, bah oui, ça.
Là, on s'imagine bien marcher, tu sais, dans une petite forêt avec des arbres, avec des branches qui se tendent vers toi comme des doigts. Des légers filets de brume qui passent autour de tes pieds, tu sais. Et puis je vois bien un manoir avec une lune au fond. Pas un manoir. Un château avec des tours. Et dans une des tours, il y a une lumière qui brille et une silhouette sombre qui nous regarde. C'est typiquement ça que j'avais, moi, tu vois.
Mm-hmm. Moi, je pense à des crapauds parce que Tales Under the Oak, il a commencé en faisant des disques sur le petit peuple.
Avec des crapauds.
Ouais.
Ouais, des crapauds. Mais il n'y en a pas dans One More Quest?
Eh ben, si, justement.
Comment t'as vu comment on est trop fort?
C'est une des six ancestries. Alors bon, moi, j'ai la gamme anglaise, hein, et puis le kit d'initiation en français, hein, qui était paru pour nous donner envie d'acheter cette VF qui arrive dans un mois chez Entremonde. Et donc ouais, dans les ancestries, on peut, bon, il y a les nains, les alphelins, les elfes, les humains, les orques, assez classique, mais il y a aussi les batraciens.
Mais qui a envie de jouer une grenouille?
Alors là, c'est un prince grenouille quand même. Donc,
mais j'ai pas vu la couronne. Donc, de quoi ça parle One More Quest?
Alors déjà, One More Quest, c'est l'adaptation au jeu de rôle d'un jeu de plateau, Dungeon Crawler, hein, qui s'appelle Dungeon Fighter, okay. Qui a connu deux éditions. La deuxième doit être chez Edge, je crois, toujours largement trouvable en boutique. Et puis alors l'originalité de ce jeu, parce que c'est pas très original comme Dungeon Crawl, tu sors des tuiles et puis tu construis ton donjon, puis t'avances, tu te fight et tout. Voilà, l'originalité, c'était
je reviens rapidement. Dungeon Crawl, en fait, le but, c'est d'explorer un donjon.
Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Et là, on est vraiment dans l'optique porte-monstre trésor. Et puis l'originalité de ce jeu de plateau, bah, c'était de lancer les dés, donc déjà sur une cible. Alors plus on se rapproche du centre de la cible, à l'arrivée de notre dé, meilleur est le score. Et en plus, l'action qu'on tente nous détermine la façon de lancer le dé.
Alors, il va falloir que tu expliques un petit peu plus ça, s'il te plaît.
Alors, ça a été redéveloppé dans le jeu de rôle, qui a été écrit ensuite par un des trois créateurs du jeu de plateau, donc qui s'est bien accompagné pour faire son jeu de rôle. Alors d'abord, on va dire les personnages ont six caractéristiques: force, agilité, dextérité, intelligence, perception, charme ou charisme. Ça, pour le moment, c'est pas très original. Sous-divisé en 6x4 compétences. Et donc, okay, quand vous faites un jet de compétences, eh ben vous avez une façon de lancer le dé. Par exemple, si vous faites un test pour soulever un gros objet, faire un gros test de force dans le jeu, il faut que vous lanciez votre dé avec le coude.
Attends, je suis en train d'essayer d'imaginer.
Tu poses ton dé sur le coude et hop, tu le lances. Il faut que ça rebondisse une fois sur la table et que ça arrive sur la cible.
Oh la vache! Ok.
Pour faire un test de combat à main nue, il faut lancer avec le genou. Ou alors, il faut faire rebondir le dé sur son genou et qu'ensuite, il aille sur la cible.
Ouais, alors, ok, c'est vraiment un jeu de rôle ou c'est plutôt du yoga et une expérience un peu sensorielle différente?
Bah ça, c'est un mélange des deux. Alors après, il y a quand même... alors, le livre de base, il fait...
Il est pas petit.
Non, il est pas petit. Puis moi, comme il est en anglais, j'avoue que je me suis pas trop plongé dedans. Ça fait 300 pages. Il y a un lore quand même assez décrit. Hein. C'est pas juste une blague, ce jeu.
Oui, parce que j'ai cru que ce n'était que des façons de lancer le dé, les 300 pages.
Alors, les façons de lancer le dé, finalement, donc t'as les 24 compétences. Alors, il y a aussi les conditions qui peuvent intervenir. Par exemple, si t'es intoxiqué, si t'es pressé, si tu suffoques, tu rajoutes une condition en plus pour ton lancer de dés. Donc il va falloir faire aussi des combinaisons de façons de lancer les dés. Et puis sinon, en fait, t'as les objets, alors les armes dont on se sert dans ce jeu, elles ont leur propre façon de lancer le dé.
Ok. Ouais. Alors, en fait, j'ai peur de voir ces façons de lancer les dés sur plein de trucs.
Bah, c'est ça qui est drôle, hein, j'imagine.
Ouais.
Et puis, donc, on est dans un monde, on va dire, plutôt médiéval fantastique, mais avec beaucoup d'anachronismes quand même. Il y a des personnages qui ont des genres de pistolets. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de références geek aussi qu'il faut retrouver. Donc, c'est un jeu plutôt pastiche.
Oui, qui peut être bien drôle quand même.
J'imagine que c'est le but. Hein. Ça se définit comme un jeu de comédie, comédie acrobatique.
Alors, je suis en train de parcourir le bouquin et on a les monstres dont les stats sont représentés aussi sous forme de cibles.
Alors c'est vrai, ouais. Nos compétences, enfin les caractéristiques, les 6 caractéristiques sont représentées sous forme de cibles avec de degrés qui vont de 1 à 5. Plus il y a de cases qui sont grisées, plus on est balèze. Et donc si notre dé arrive à aller sur la cible et fait un certain score, on rajoute ensuite ces points qu'on a déjà dans les 6 caractéristiques. Si on en a. On n'en a pas toujours.
Ok, j'avoue. Oui, par exemple, après, l'élémental de feu, il n'a pas de carac. Il y a une cible qui est vierge.
Mais après, tu as un niveau de... Enfin, il y a un résultat à atteindre. Le maître du jeu, quand même, te dit, voilà, c'est un test de force, difficulté 7.
Ok.
Donc, il faut aussi citer les points qui viennent, toi, de tes caractéristiques. Et puis, il y a aussi quand même un truc. Si ton dé arrive sur une certaine face où on voit un œil, ça s'appelle le œil d'ailleurs, ton score est doublé.
Trop bien. Donc, tu l'as lancé d'abord sur ton coude, d'abord sur ton genou, et ensuite, ça atterrit sur la cible en ayant fait 3 tours sur lui-même. Ça tombe sur l'œil, en fait, c'est instant kill, quoi.
Voilà.
Oui, trop bien.
Alors, il y a aussi un recueil de scénarios qui est en cours de, enfin qui doit être traduit d'ailleurs à l'heure actuelle, qui fait à peu près 200 pages. Et là, ils ont demandé à des gens, des potes en fait, hein, ou des gens dont ils aimaient bien le travail dans le jeu de rôle, mais aussi dans le jeu de société. Il y a Antoine Bozat, qui est plus connu pour
le jeu de société,
ouais, que jeu de rôle. Des gens qui viennent aussi du cinéma d'animation ou du jeu vidéo. Et donc, il y a quand même 14 scénarios dans ce recueil des scénars avec des trucs assez débiles. Par exemple, là, j'ouvre au pif, je tombe sur A Killer Party, écrit par Sarah Madsen. Le pitch, c'est que... Alors, les aventuriers, donc, sont des dungeoniers. Alors, je sais pas trop comment on traduit ça en français. Vous êtes vraiment des dungeoniers dans l'âme. Donc, dès qu'il y a moyen d'aller dans un donjon, on y va et puis on fait cette petite quête. Et Killer Party, c'est un roi qui nous dit que sa fille, la princesse qui allait se marier dans 3 jours, en plus, forcément, est partie, genre, enterrement de vie de jeune fille, à la teuf d'un certain DJ. Donc, il y a bien des platines et toutes des choses comme ça, quelques anachronismes. Et en fait, ce DJ, c'est un magicien et il fait danser les gens jusqu'à épuisement. Ah. Et même quand il meurt de fatigue, il continue de danser. Il y a aussi un scénario, le scénario d'Antoine Bozat, quand même, le pitch. Pendant une grande réception, le bouffon est mort sans ayant terminé sa blague, ce qui crée un énorme incident diplomatique. Et donc, la mission des dungeoniers, c'est d'aller dans les cimetières nécromancer le bouffon pour avoir enfin la fin de la blague. Mais attention, le bouffon n'est peut-être pas mort par accident.
Non, mais c'est trop bien.
Donc il y a plein de pitchs assez rigolos. Moi, j'avoue que ça m'a fait un petit peu basculer enfin vers ce jeu. Il y a aussi un scénario pour les métalleux avec le grand méchant, le Lord of Metal, qui construit son propre donjon. Et il va falloir aller le débouter, sachant que le Lord of Metal, donc le maître du jeu incarnant les PNJ, lui aussi lance des dés, notamment en faisant...
Voilà,
alors par exemple, le Lord of Metal, il joue en faisant le symbole de la main des métalleux, je sais pas comment t'appelles ça, Rome, le symbole des cornes.
Ouais, le symbole
et
des
donc,
cornes.
En fait, le Lord of Metal, il faut que tu tiennes ton dé entre les deux doigts, donc c'est le deuxième et le cinquième hein, pour les métalleux, et qu'ensuite on lance le truc sur la cible.
Mais c'est infernal.
C'est un petit peu fou. Il y a aussi un scénario qui se passe sur un golf et il faut terminer le 18e trou qui est un donjon. Voilà.
C'est dingo.
Bon, alors moi, du coup, samedi, je ferai jouer le scénario qu'on trouve dans le kit d'initiation en français, hein, qui est un peu... où vous êtes là des étudiants quand même à la Sorbonne. Alors Sorbonne, S-O-R-T, hein. On a des étudiants un peu en magie, option donjon, et je vous raconte pas tout. Et c'est dans l'esprit un petit peu potache, fraternité d'université à l'américaine.
Ah ouais, donc il y a moyen de... Ouais. Il y a moyen, moyen. J'en profite pour aller voir... Alors, n'y allez plus, hein, c'est terminé le financement depuis le 13 février. Sur la version française publiée par Autre Monde Édition avec Horrible Guild. Je vois pas qui c'est Horrible Guild.
Ben c'est les Italiens qui ont écrit d'abord le jeu Dungeon Fighter et ensuite le jeu de One More Quest.
Oh ouais, donc c'est une grosse collab. Le jeu a fini avec 196% de sa demande, ce qui est fabuleux, mais qui est plutôt honorable. Hein. Donc voilà, et en français ils ont appelé ça des donjonneurs aussi. Hein, donc Dungeoneers and Dungeoneers.
Alors d'ailleurs je pensais à un truc aussi, on a des dés un peu différents. Alors ça, je crois qu'ils sont pas arrivés dans la version française, mais dans la VO, la gamme est assez, il y a beaucoup de matos et il y a des dés très différents aussi en fonction des personnages. Par exemple, un personnage qui déclare qu'il est vegan, qu'il ne mange pas de viande, il joue avec un dé en bois par rapport aux autres, avec dessus des s'il arrive sur certaines faces, ça lui permet de regagner des points de vie.
Ouais, je vois.
Donc
pas
il y a
les
plein de choses comme ça, plein de petits gadgets et tout qui ont été sortis au moins dans la VO.
Il y avait un set de dés de luxe, mais je sais pas si c'est des dés
avec les
spécifiques, hein, avec les neuils.
Ouais ouais. Si.
OK. OK OK, et ben c'est plutôt pas mal tout ça. Donc moi ça me donne envie de jouer hein, à ça. Donc One More Quest, ce sera on a une idée de quand est-ce que ce sera reçu?
Ouais, je crois que ça arrive dans un mois.
Dans un mois,
avril, il me semble.
Fin avril, voilà, on sera peut-être l'occasion de se faire une partie.
Alors c'est pas très radiophonique, hein, parce qu'on passe beaucoup de temps quand même à regarder la cible et la façon dont on lance les dés.
Eh ben, on les décrira. Hein,
ou alors il nous faudra les caméras.
Il nous faudra des caméras, on vous filmera ça.
Et d'ailleurs, sur la VO, j'ai pas trouvé beaucoup de parties en ligne, alors que c'est quelque chose de, j'imagine, d'assez spectaculaire. Ça doit être sympa à filmer aussi. Et en fait, il y a très peu d'actual play de One More Quest.
Eh ben, il va falloir qu'on fasse ça.
Un jeu qui mériterait d'être plus médiatisé.
Eh ben, on va faire ça. Allez, c'est noté. Je prends rendez-vous. Parfait. On va pas. Je voulais parler un petit peu de l'arrivée de Brindlewood Bay, non seulement chez les backers, mais en boutique. On va pas forcément avoir le temps de détailler, mais sachez que les bouquins sont en cours d'expédition ou de réception chez vous.
Si vous les avez foulancés.
Si vous les recevez et que vous les avez pas foulancés, envoyez-les-moi. Hein, ça me ferait plaisir. Mais non, la façon est plutôt bien faite et c'est plutôt cool. Les couleurs sont bien sympas et les ouvrages rendent très très bien. Ça va être tout pour nous ce soir. Merci Romain, j'ai été appelé Fabien, mais c'est pas la bonne émission.
Tu peux.
Merci Romain d'avoir participé. On remercie encore très très fortement Denis de nous avoir accompagné sur une partie de l'émission. On rappelle que vous allez pouvoir aller jouer à Luco ce samedi à partir de, j'ai perdu l'heure,
13h30 la conférence, 14h30 les parties.
Voilà. Et puis que si vous lancez le dé à la fin, vous aurez l'occasion de repartir avec un petit cadeau. Voilà, et ben amusez-vous bien, bonne soirée à tous, et puis on se retrouve dans 15 jours.
Intoxica, dans quelques minutes sur Radio G.
Et ouais.
Fais chauffer les platines vinyles.
Allez, yeah.
Salut.